Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Il met de l'affect en toute chose, Frédéric. Ça encombre parfois son talent, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Lui qui agaçait cet oncle président de la République, songeur devant tant de liberté et de fantaisie assumée. Sa vie follement romanesque ne l'a pas empêché de créer un réseau de salles de cinéma d'art et essai, de réaliser lui-même des films, de produire et présenter des émissions à la télé, d'écrire la grande affaire de sa vie, de diriger à Rome la Villa Médicis, d'être 3 ans ministre de la Culture et d'être élu en 2018 à l'Académie des Beaux-Arts, son épée d'académicien d'ailleurs remise par l'impératrice d'Iran Farah Pahlavi. Voilà, tout cela, ça fait peut-être beaucoup pour un seul homme, mais Frédéric Mitterrand a de quoi engranger encore beaucoup de souvenirs. Son nouveau livre, Une drôle de guerre, qui paraît chez Robert Laffont, n'est pas fait de la chair des précédents. À la mi-mars, son frère aîné, Jean-Gabriel Mitterrand, a été hospitalisé en réanimation, plongé dans le coma et intubé à cause du Covid. Frédéric Mitterrand en tire un journal de bord intense qui n'oublie pas d'être une œuvre d'écrivain.
Europe 1.
Et je suis ravie de l'accueillir. Bonjour Frédéric Mitterrand.
Bonjour et merci pour ces mots tellement gentils.
Cher Frédéric, à vous qui semblez être né nostalgique, je pose cette question. En réalité, le monde d'hier a disparu bien avant le Covid, n'est-ce pas ?
Oui, le monde d'hier a disparu bien avant le Covid, mais il y a toujours cette idée que le passé ne passe pas. C'est-à-dire qu'il faut, le connaître. Il faut le connaître pour s'en servir dans le présent. Mais il ne faut pas en être prisonnier non plus. Donc il faut très bien le connaître et très bien s'en servir. Et donc, quand on me dit que je suis nostalgique, la nostalgie, c'est vouloir que le passé, de vivre tout le temps dans le passé. Non. Vivre tout le temps dans le passé, ça, c'est pas du tout ce que je souhaite. Je souhaite me servir du passé pour avancer vers l'avenir. Voilà.
Pourtant, j'ai le sentiment que le monde d'hier a vraiment disparu. Celui de demain est flou. Au sujet de la tempête provoquée par le Covid, vous écrivez dans ce livre, Une drôle de guerre, vous écrivez « Elle révèle en fait les sécurités fausses et superflues avec lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, nos habitudes, nos priorités. » Et vous reprenez ces mots du philosophe Emmanuel Coccia « La Terre et sa vie n'ont pas besoin de nous pour imposer leurs ordres, pour inventer des formes, pour changer de direction. Donc on oublie que la vie se débrouille très très bien sans nous. »
Alors là, il y a deux idées auxquelles je tiens. C'est vrai que la vie se débrouille très très bien sans nous et que quand on sera plus là dans 50 000 ans ou dans 100 000 ans, la Terre continuera à tourner peut-être. En tout cas, elle a vécu pendant plusieurs millions d'années sans nous et donc elle pourrait éventuellement se passer de nous. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est qu'on perd beaucoup de temps. On s'invente énormément d'obligations qui ne sont pas forcément les plus importantes. Les plus importantes étant les obligations affectives auxquelles il faut rester fidèle. On tombe dans les pièges de l'ambition. On fait quelquefois la cour à des gens ou à des situations qui ne le méritent pas parce qu'on voudrait progresser et en fait, ce n'est pas bien. Plein de choses comme ça. Quand on est en face d'un drame comme celui dont je parle dans Une drôle de guerre, à ce moment-là, forcément, il y a d'autres priorités. Et on se rend compte qu'à l'avenir, il faudra essayer de ne plus perdre son cœur. Voilà. Mmh. Et donc, ça, c'est le plus important. Mais je ne suis pas sûr qu'on y arrivera. Il y a une phrase de Jacques Julliard qui est très belle. Il dit « On ne savait pas à quel point on était heureux.
» On ne savait pas à quel point on était heureux. Ça, vous avez pu le mesurer pendant l'écriture, la rédaction de ce livre, Une drôle de guerre. Vous êtes 3 frères qui s'aiment infiniment et acceptent leurs différences. L'aîné, Jean-Gabriel, qui est un galeriste très réputé, a été frappé par une forme extrêmement sévère de Covid à la mi-mars, qui a nécessité donc pendant 3 semaines de le mettre en réanimation, intubé et en coma artificiel. Vous avez donc au jour le jour tenu un journal de bord divisé en 2 parties. Sur les pages de gauche, un journal intime d'écrivain consignant les pensées incisives comme ça, attrapées dans l'instant, et puis le regard sur le monde dans un style vraiment chose vue, comme le faisait en son temps Saint-Simon, Stendhal, Victor Hugo, Julien Green, que vous adorez, ou Paul Morand même, je pense au journal
Paul
inutile.
Paul Morand, j'aime beaucoup l'écrivain, mais
l'écrivain,
pas l'homme.
Hein. Mais pas l'homme, on est d'accord. Et puis sur les pages de gauche, tous les messages reçus pendant cette épreuve où vous redoutiez, bien sûr, que votre frère ne sorte pas du coma. En fait, pendant l'écriture de ce livre, vous avez sous-pesé le temps d'avant par rapport au temps qui reste en permanence, c'était ça ?
J'ai sous-pesé l'importance de la famille. Vous parlez de celui des 3 frères qui a été atteint par la maladie, mais l'autre frère, Olivier aussi, a été admirable dans toute cette période, puisqu'il était à la tour de contrôle et c'était lui qui permettait de savoir ce qui se passait avec un interne de l'hôpital et avec les soignants qui, malheureusement, n'avaient pas beaucoup de temps pour communiquer, on peut les comprendre. Et donc, c'est cette histoire-là aussi, c'est une histoire de solidarité. Une histoire de solidarité entre les trois frères, entre les trois frères et leurs enfants, car les enfants ont beaucoup compté. Les enfants de mon frère malade, les enfants de mon autre frère, les miens, et puis de solidarité avec tous les gens qui ont téléphoné, demandé des nouvelles et tenté de le savoir.
Frédéric Mitterrand, quand Jean-Gabriel, après une longue rééducation, a recouvré les forces arrachées par le coma, est-ce que vous avez fait de lui votre premier lecteur ?
Non, je ne lui ai pas
donné
le livre.
Vous ne lui avez pas donné le livre ?
Non, je n'ai pas donné le livre parce que je sais très bien ce qui va se passer. Il va me dire, écoute, franchement, tu es gonflé de faire de moi un héros de roman, tu es trop gentil, et puis après on n'en parlera plus. Ce qui est beaucoup trop pudique.
Machiavel, qui est né au milieu du XVe siècle, écrivait...
c'était pas un gentil, lui.
Ah, certes, celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. Oui. Alors, on ne peut s'empêcher de penser au nouvel ordre sanitaire qui, avec le rappel obsédant des gestes de barrière, nécessaire, certes, mais installe vraiment un climat de suspicion terrorisé, puisque, en fait, les gestes de barrière font de l'autre, de tous les autres, des ennemis potentiellement mortels. Vous pensez qu'il faudra du temps pour désapprendre la peur ?
Oui, je pense qu'il faudra un certain temps. Enfin, je pense que ça viendra très vite, mais il y a quelque chose qui ont marqué quand même. Que l'autre soit un ennemi, c'est insupportable. Et je dois dire que moi, j'ai du mal à le vivre en permanence. Et je pense que beaucoup de gens qui traversent une expérience comme celle dont je parle dans Une drôle de guerre auront éprouvé la même chose. L'autre n'est pas un ennemi. L'autre n'est pas un danger. Et cependant, on est obligé de vivre comme si c'était le cas. Mmh. C'est insupportable. Mmh. Je crois que c'est un des pires ravages, en dehors du ravage proprement sanitaire qu'apporte la maladie, je crois que c'est un des pires ravages, c'est le pire ravage moral qu'elle nous apporte. Et le livre, c'est pour ça que ça s'appelle « Une drôle de guerre ». La drôle de guerre, c'était une guerre qui n'était pas une guerre, et en fait, il y en avait une autre qui se préparait et qui allait être épouvantable. Et bien, c'est ça. Le ravage, c'est le ravage moral que ce drame nous apporte.
Au nom de votre famille, Frédéric Mitterrand, vous, les trois frères, formez une entité dont la profondeur stratégique, comme on dit à l'armée, est raccourcie, bien évidemment, naturellement, par le temps qui passe. Peut-être plus de 10 ans à vivre encore, tous les trois ensemble. Et vous écrivez dans ce livre, 15 ans si je regarde derrière moi. Mais 15 ans, c'était ce matin.
Oui, 15 ans, c'était ce matin, effectivement. Et donc, quand on est tout jeune, eh bien, on pense que la vie est une sorte d'immense gâteau qui ne va jamais finir. On sait qu'il y a des deuils, on sait qu'il y a des drames, mais en fait, on n'en a qu'une perception comme ça, assez abstraite. Et puis, quand on arrive à un certain âge, on se regarde et on se dit, mais moi, de temps en temps, je tombe sur des émissions que j'ai faites il y a 20 ans. Et j'ai l'impression de les avoir faites ce matin et je regarde le monsieur qui est là et je me dis, mais c'est pas le même que je vois dans la glace le matin quand je me lève. Je vois à quel point j'ai vieilli, à quel point j'ai changé. C'est incroyable. Bon, eh bien, je me dis, si je mets ça devant moi, je ne serai plus là. Donc, il y a une perception de la nécessité de ne plus perdre de temps et d'essayer de faire des choses intéressantes, c'est-à-dire qui puissent intéresser les autres.
Faire, c'est-à-dire créer.
Oui, accomplir. C'est ça le plus important, accomplir.
On retrouve tout de suite Frédéric Mitterrand.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Frédéric Mitterrand, comment avez-vous trouvé votre place auprès de deux frères qui avaient 7 ans et 4 ans de plus que vous ? 7 ans d'écart, quand on est enfant, ça représente carrément une génération d'écart. On ne joue pas à 8 ans avec son frère de 15 ans. Alors, qu'avez-vous partagé quand vous étiez enfant, puis adolescent, avec Jean-Gabriel, qui est au cœur de ce livre, Une drôle de guerre ?
Alors, ma famille, c'est une matriarchie. C'est-à-dire qu'il y a eu un personnage très, très important qui était notre grand-mère, qui est morte quasi centenaire, c'est-à-dire que nous l'avons eue très très longtemps. Et elle était en très très bonne forme en plus. Et nous l'adorions et c'était une personne vraiment magnifique. Et ensuite, il y a eu ma mère qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et ces deux femmes, à travers tous les aléas de l'existence, ont maintenu très fortement l'idée de la famille.
Ouais.
Et donc les trois frères, malgré les différences d'âge, ont toujours vécu très, très serré. Et Moi, j'étais le petit, mais le petit, il aspire à devenir grand, évidemment, quand il a d'autres frères plus âgés. Donc, j'avais beaucoup d'admiration pour l'un et pour l'autre. Ce qui explique sans doute qu'il y a dans ce livre l'expression d'un grand, très grand amour. Je ne sais pas si eux, ils m'aimaient beaucoup. J'étais le petit dernier qui est casse-pied, qui pose tout le temps des questions. Et quand les grands sortent, qui veut sortir avec eux.
Bien sûr.
Et, alors, moi, j'étais très commode pour eux, parce que j'étais mignon et que les filles aimaient bien le petit frère mignon. Donc, on envoyait le petit frère mignon à la patinoire ou ailleurs pour faire des compliments, pour faire la roue, etc. Ça permettait de...
d'attirer l'attention.
Ça permettait d'avoir des liens. Mais ça veut dire aussi que, en fait, les relations étaient toujours très, très fortes et permanentes.
Mais alors, parlons du père, Frédéric Mitterrand. Votre père, Robert, était le frère de François Mitterrand. Et vous dites, mon père a aimé ma mère, il a aimé sa deuxième femme, il a aimé ses enfants, mais... indubitablement, l'amour de sa vie a été son frère, François Mitterrand.
Oui, mais c'est vrai.
Plus que ses enfants.
Non, pas plus que ses enfants. Je ne dis pas plus que ses enfants.
Ah, vous le sous-entendez.
Mais je dis indubitablement, c'était en tout cas son grand amour. Oui.
Ouais.
Ça a été son grand amour. Et j'ai d'ailleurs fait un film sur la jeunesse de François Mitterrand qui s'appelait Le pays de l'innocence, où je raconte ça. Je raconte le fait que François Mitterrand exerçait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'homme politique, ça c'est une autre affaire, mais qu'il exerçait dès sa jeunesse une emprise extraordinairement forte sur tout son entourage, sur ses parents et sur ses frères et sœurs. Et Dieu sait s'ils étaient nombreux. Et cette emprise a continué à s'exercer sur mon père tout au long de sa vie.
Alors effectivement, François Mitterrand, en fait, a toujours été la statue du commandeur dans votre famille. Mais... on se devait de l'aimer, c'était non négociable. Et dans le même temps, il était inconcevable d'aimer De Gaulle. Or, les mémoires de Gaulle, lues quand vous aviez 13 ans, j'imagine en cachette, ont été...
Non, pas
en cachette, mais elles ont été une révélation. Être gaulliste chez les Mitterrand, ça ne devait pas être aisé quand même quand vous étiez ado.
Non, d'abord, ils étaient très tolérants.
On mais tout
pas,
de même
On n'était pas chez des brutes.
Mais tout de même
Non, au contraire, toutes les aventures intellectuelles, entre guillemets, dans lesquelles les enfants se lançaient, intéresser les parents, les adultes, etc. Donc il n'y avait pas de problème. C'était pour moi qu'il y avait un problème. C'est que moi, j'étais partagé entre l'admiration réelle que j'avais pour la statue du commandeur et l'admiration que j'avais pour De Gaulle. Alors maintenant, c'est moins grave. Parce qu'au fond, avec le passage du temps, quels que soient les jugements qu'on peut porter sur François Mitterrand, on se rend compte qu'il a été quand même un président important. Et donc, il y a une sorte de réconciliation faite par l'histoire.
Yeah.
Donc, tout va bien. Mais quand on est un enfant, pendant la période de la guerre d'Algérie, pendant la période où le général de Gaulle exerce la plénitude de ses pouvoirs, alors évidemment, c'est assez compliqué à vivre. Mais bon, sans drame non plus.
Mais, Frédéric Mitterrand, toute votre vie, jusqu'à ce qu'il vous écrive une lettre admirable un mois avant sa mort, vos relations en fait avec François Mitterrand ont été assez complexes parce qu'il se méfiait de votre liberté, de votre fantaisie. Il vous savait rétif, secret, imprévisible, non gouvernable.
Alors là, vous êtes très très gentil de dire tout ça. Parce que ça, tout d'un coup, on a l'impression que j'étais quelque chose de très très important pour lui, une vraie question qu'il se posait. Je pense que ça ne lui arrivait pas si souvent. Il avait une relation assez distante avec les enfants. Je le crains malheureusement en général avec ses fils.
Oui.
Et en tout cas, certainement pas avec Mazarine, qui a été, alors pour le coup, c'est le grand amour de sa vie. Mais c'était une fille, et elle lui tenait tête.
Et elle lui tenait tête.
Oui. Et en plus, elle était aussi intelligente que lui.
Mais vous aussi, lui teniez tête.
Oui, mais moi, j'étais le... Ah, c'était compliqué. D'abord, j'étais le fils d'Edith, qu'il avait sans doute aimé avant. Très longtemps avant la guerre.
Alors compliqué,
c'était compliqué.
Effectivement.
Ouais. Et j'étais un petit garçon du 16e, alors que lui était officiellement rive gauche et socialiste. Enfin bref, plein de choses. Je ne l'intéressais pas beaucoup. Ensuite, quand j'ai commencé à faire des choses un petit peu plus visibles, ça n'a pas du tout agacé. Simplement, il aurait préféré que pas entendre parler de moi, quoi. Et c'est compliqué un peu quand même. Et puis...
Mais par exemple, parce que ça peut ressembler à une anecdote, mais quand même ça dit beaucoup de votre caractère, Frédéric Mitterrand, parce qu'il faut un sacré culot à l'âge de 11 ans, sans la bénédiction des parents, pour aller se présenter à un casting, pour tourner auprès de Michel Morgan et de Bourvil dans Fortuna. Je ne sais pas si la famille s'en est émue ou pas. Comment a-t-il réagi, François Mitterrand?
Non, ils étaient très tolérants, hein. j'étais stupéfait de voir que le petit garçon tellement sage, qui revenait avec des bons bulletins et qui faisait jamais de problème, avait en fait une sorte de vie secrète et qu'il avait eu le culot comme ça de vouloir faire un film et aussi de faire tous les éliminatoires sans prévenir personne. Et ça, ils auraient dû d'ailleurs un peu s'interroger un peu plus. Ils auraient dû se demander si cette manière d'être ne risquait pas de continuer un peu. Mais non, non, les conflits, si conflits il y eut, c'était jamais de cet ordre-là. C'était des conflits aussi qui étaient dus à l'inquiétude. À un certain moment, ils se sont tous demandé si j'allais pas devenir un peu fou ou un peu dur à contrôler, si j'allais pas, me détruire moi-même. Très vite, après 68, quand j'ai quitté la maison un peu brutalement et que je suis devenu tout d'un coup un peu rebelle.
Un peu rebelle, mais un rebelle qui quand même s'était présenté au concours de l'ENA. D'ailleurs, vous étiez admissible, mais vous n'êtes pas présenté à l'oral. Pour
oui,
quelle
mais justement,
raison
mais c'était ça la rébellion.
Incroyable, la rébellion. Admissible à l'ENA,
oui, mais
vous n'allez
ça,
pas à l'oral.
C'était de s'en aller, je voulais m'en aller, voilà. Et je pense que une des raisons un peu des relations compliquées que j'ai pu avoir avec François Mitterrand, c'est que je n'étais pas rassurant. Et François Mitterrand était de surcroît un intellectuel extraordinaire. Quand vous regardez les photos de François Mitterrand dans les voyages officiels, vous le voyez toujours dans le fond de l'avion avec un livre, pendant que tous les autres sont en train d'échanger des notes, etc. C'était un homme qui accordait une place à l'esprit considérable. Je crois aux forces de l'esprit. Vous rappelez ces derniers discours qui sont quand même magnifiques. Donc, je pense qu'il me reconnaissait certaines qualités et qu'il me reprochait de ne pas les utiliser assez. Quand je faisais des émissions de variété que j'adorais faire, assez amusantes, il n'y avait pas du tout. Ça agaçait beaucoup. Il disait, mais tu ferais mieux de faire une émission littéraire. Je disais, mais je fais aussi des émissions littéraires. Je fais aussi beaucoup de choses. Mais voilà, bon, c'est comme ça.
J'ai 1000 questions à vous poser, cher Frédéric. Alors on s'interrompt un bref instant. On se retrouve tout de suite en compagnie de Frédéric Mitterrand.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Frédéric Mitterrand, avec un amour de Swann, Marcel Proust a éclairé en quelque sorte l'adolescent déboussolé que vous étiez, qui sentait confusément la singularité ambiguë de ses goûts, mais qui n'avait pas encore peut-être les mots pour les exprimer. Proust et d'autres auteurs même, Simone de Beauvoir par exemple.
Je dois préciser que je ne les ai pas connus. Hein.
Mais lus, ai-je dit, lus. Pourtant, malgré ce goût si prononcé pour la lecture, ce n'est pas vers la littérature que vous êtes tourné pour la première grande aventure de votre vie d'adulte, c'est vers le cinéma. Après avoir restauré une salle de cinéma dans le 14e, vous avez créé un réseau d'une dizaine de salles d'art et d'essai à la programmation flamboyante, hein, Pasolini, Duras, Ingmar Bergman, Kurosawa, Ozu, les films égyptiens, les chefs-d'œuvre d'Hollywood et puis le cinéma indépendant. L'image, à cette époque-là, était pour vous plus forte que les mots ?
Je ne dirais pas ça, parce que en fait, pendant toute cette période-là, j'écrivais beaucoup, mais j'écrivais des critiques dans un journal, et donc j'avais toujours un contact assez fort avec l'écriture. Et par ailleurs, j'ai assez vite fait un film,
oui,
qui était L'aide d'amour en Somalie, qui était en fait un film-roman, ou un roman-film.
Le roman est paru après le film.
Tout en même temps.
Pratiquement en même temps.
Et donc, je n'ai jamais été loin du plaisir, du bonheur d'écrire et du bonheur de lire. Mais c'est vrai que pendant un certain temps, la priorité, ou du moins la surface visible, c'était les programmations de films dans mes salles et ensuite les émissions de télévision.
Vous aviez le sentiment très jeune, Frédéric Mitterrand, que le cinéma procurait en fait une autre intimité plus immédiate, plus charnelle peut-être que celle des mots ?
Oui, peut-être.
À l'âge de 20 ans ?
Oui, c'est-à-dire que j'adorais le cinéma et je vivais le cinéma comme une espèce d'expérience initiatique à chaque fois. J'étais dans une salle obscure, seule avec le film, même quand j'étais avec plein de gens. Et donc, c'était d'une force incroyable. Et je vivais mon amour du cinéma comme une histoire de famille. C'est-à-dire que je plaquais sur chacun des films que je voyais le scénario de ma vie familiale. Ma mère très présente, très séductrice, géniale et en même temps pour un enfant, c'est terrible d'avoir une mère géniale. Ma grand-mère, mon père.
Pourquoi ?
parce qu'il investit un ensemble de sentiments pour sa mère qui vont le dévoyer en quelque sorte, qu'il n'arrivera plus à gérer ensuite et qui vont poser un certain nombre de problèmes. Il ne faut pas trop aimer sa mère. Il ne faut pas trop aimer... c'est terrible à dire. Il faut, bien sûr qu'il faut l'aimer.
En plus, bien sûr elle qu'il était faut magnifique. Vous dites que jeune, oui. Elle ressemblait à Deborah Kerr,
votre
mère.
Tout le monde l'aimait. Et tout le monde l'a aimé jusqu'à la fin. Mais non, c'est idiot ce que je viens de dire. Il ne faut pas trop aimer. On n'aime jamais trop sa mère. Mais il ne faut pas que ça devienne un amour exclusif. D'abord parce que c'est insupportable pour elle, et puis parce que en fait ça fait qu'on passe à côté beaucoup de choses et qu'on fait voilà, c'est très compliqué ça. Mais ça on fera un autre livre. Une drôle de guerre, c'est pas ça que ça raconte.
Non, c'est pas ça.
Ça raconte ça quand même aussi parce que c'est très présent tout ça.
Oui, par fragments comme ça, saupoudré.
Une drôle de guerre parce que.
Vous aimez le titre, hein?
Oui, j'aime le titre parce que le président de la République. A dit dans sa première déclaration que nous sommes en guerre. Et en même temps, je travaille beaucoup sur l'année 1939, qui sera un autre livre. Et donc, je pense à ce terme qui était la drôle de guerre, où il ne se passait rien et où, en même temps, ça a été épouvantable.
Mais on va l'évoquer, justement, ce manuscrit que vous êtes en train de rédiger sur 1939. Là, je voudrais qu'on reste un moment sur... l'adolescence, en fait, la jeunesse, on parlait cinéma. Bon, par la suite, vous avez présenté beaucoup d'émissions sur le cinéma et vous êtes emparé de la caméra, d'abord pour Lettre d'amour en Somalie, ensuite pour le très beau Madame Butterfly, votre adaptation au cinéma de l'opéra de Puccini. Mais pourquoi n'êtes-vous pas devenu cinéaste, Frédéric Mitterrand ?
Je suis devenu cinéaste.
Parce que vous, oui, mais cinéaste, vous avez eu tant de vie loin, alors... à côté du cinéma... On a l'impression que vous avez plus de plaisir à voir un film qu'à le tourner.
Alors, première chose, je n'ai pas eu tant de vie que ça. Je n'ai eu qu'une seule vie où j'ai toujours fait la même chose, sous des formes différentes. Même quand j'étais ministre, je faisais la même chose, raconter une histoire.
Raconte une histoire.
Oui, ça raconte une histoire, oui, pour plein de gens qui se sentent dépossédés de la leur et on essaie de lui donner une forme en essayant de se rendre utile. Donc, je racontais toujours la même histoire. Ensuite, j'ai toujours fait des films. C'est-à-dire que toutes les émissions biographiques.
Oui, tous les documentaires.
Toutes ces histoires. Alors, on dit, vous racontez que des histoires de princesses. C'est pas vrai. J'ai raconté des histoires de princesses, certainement.
Le dernier documentaire, c'était par exemple la jeunesse de Trump.
Oui, par exemple. Non, le dernier, c'était Lana Turner, encore, qui était venu après. Et là, il y en a encore eu un, il y a quelques jours, qui était la vie d'Arletty avec son amant allemand pendant la guerre. J'ai toujours raconté des histoires. Quelquefois, c'était un film. Quelquefois, c'était une biographie télévisée, mais... En vérité, c'est parce que je suis impatient. C'est-à-dire que je veux vraiment qu'on toujours travailler, toujours faire quelque chose. Et le cinéma, ça prend trois ans.
Quand vous racontez des histoires dans les documentaires, vous êtes auteur, scénariste, réalisateur et narrateur.
Voilà. Et donc, j'utilise des images que je vais chercher avec une merveilleuse documentaliste qui m'accompagne depuis 25 ans. Et ces images, elles sont... C'est comme si je les avais tournées, en fait. Parce que
mais
j'ai
alors,
choisi.
Vous voyez, en roman...
Donc
toujours,
ça devient des films.
En remontant toujours le passé. Alors, il y a une question qui me semble importante, Frédéric Mitterrand. Depuis que la mémoire du monde est consignée dans Google, les jeunes générations ont de moins en moins de mémoire. Vous ne trouvez pas ? La mémoire des hommes est de plus en plus courte et la culture est de plus en plus clivante.
On pourrait dire beaucoup de choses dans cette direction-là. C'est-à-dire que depuis que les gens peuvent communiquer, ils ne communiquent plus. Voilà. Beaucoup moins. Depuis que les gens peuvent être informés, ils développent des fausses informations. Toutes les théories complotistes, par exemple, sur le virus, c'est invraisemblable. C'est pire qu'au Moyen-Âge. Et ça s'est développé en quelques semaines. Donc, à la fois, le monde contemporain nous offre des opportunités extraordinaires. Et c'est pourquoi aussi, il faut être encore plus vigilant et encore plus actif. Pour essayer de lutter contre l'ignorance, la bêtise, la méchanceté, qui, comme tout le reste, comme la bonté, comme l'attention, comme l'éducation, se glisse dans toutes les formes nouvelles de communication. C'est pour ça que moi, je ne suis pas nostalgique. Je pense que nous avons des défis à relever. Il faut connaître la manière dont les choses ont été perverties dans le passé quand on avait des opportunités pour précisément maintenant ne pas retomber dans les mêmes erreurs.
On retrouve tout de suite. Frédéric Mitterrand.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Le nouveau livre de Frédéric Mitterrand, fragmenté de pensées, incisive, attrapé dans l'instant pendant que son frère aîné, Jean-Gabriel, plongé dans un coma artificiel, luttait contre le Covid, fait penser à Julien Green, un auteur qu'affectionne particulièrement Frédéric, mais aussi à Paul Morand ou à un Saint-Simon en fait, du XXIe siècle. Ce livre a pour titre « Une drôle de guerre » et il paraît chez Robert Laffont. Frédéric Mitterrand, vous dites « Il faut une capacité à être d'une grande sécheresse de cœur pour réussir de grandes choses. Picasso était un monstre, Victor Hugo aussi. Il faut l'être pour parvenir à accomplir son œuvre. Quand on met de l'affect en tout, ce qui est donc votre cas, ça encombre le talent, ça encombre l'ambition, les fragilités deviennent des failles, c'est ça ?
Alors, beaucoup d'observations à ce que vous dites dire. D'abord, la première, c'est que je suis écrasé par ces références. Julia bon, Green, Proust, déjà, je suis écrasé par ça. Et ensuite, est-ce que trop d'affect empêche l'action ?
Alors, à ce moment-là, et encombre le talent.
Oui, à ce moment-là, vous avez devant
j'ai
vous...
Je n'ai pas dit empêche l'action, j'ai dit encombre le talent.
Devant vous, vous avez un minable absolu, puisque c'est vrai que l'affect, chez moi, est quand même assez important. Et que le livre « Une drôle de guerre » expose tout ça à travers un certain nombre de pages. Non, je ne pense pas. Je pense que...
Je parlais de ça par rapport à la création d'une œuvre.
Oui, on n'a pas besoin de devenir un monstre pour faire des belles choses. Quand je dis que Picasso et Victor Hugo étaient des monstres, c'était des beaux monstres.
Hein. Certes, mais...
D'ailleurs, les gens qui les connaissaient les adoraient.
Mais ils dévoraient ce qu'ils aimaient.
Ah, ils dévoraient ce qu'ils aimaient, oui. Mais c'est vrai aussi que quand on a une œuvre importante, quand on se sent porteur d'une œuvre importante, ce qui n'est pas mon cas, on a besoin d'un certain égoïsme.
Alors, parlons, on va dire, par rapport à la politique, de ce que l'on inspire aux autres. Je vais reprendre cette phrase de Machiavel. Il vaut beaucoup mieux être craint que d'être aimé. Quel ministre de la Culture avez-vous été, Frédéric Mitterrand ? Vous qui, à défaut d'être aimé, êtes aimable et rarement craint.
J'ai dû être un ministre médiocre, alors.
Ce n'est pas du tout ce que je dis, mais...
Si j'en tire une conclusion...
Non, vous savez bien que les choses ne se situent pas là.
Mais j'étais un ministre d'abord qui était, je crois, était assez aimé par les gens qu'il rencontrait, qui était bienveillant et attentif. Je n'ai pas été un très bon ministre, hein, mais je n'ai pas été un ministre nul non plus. Je ne me suis pas trop mal débrouillé.
On vous doit l'ouverture, par exemple, de la Philharmonie de Paris.
J'ai fait plein de choses.
Au design novateur, on vous doit les chantiers du MUCEM, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, situé à Marseille. On vous doit la défense du droit d'auteur, ça c'est très important aussi. Vous auriez pu faire davantage s'il n'y avait pas cette nomenclature culturelle qui est presque impossible à bouger. Parce que, d'ailleurs, vous dites que le ministère de la Culture est... carrément ankylosé par l'administration. On dit oui, monsieur le ministre, et puis rien ne se fait. On croit qu'on commande quand on est ministre, mais pas du tout.
Non, ce qu'il faut quand on est ministre, il faut convaincre. Parce que si on donne des ordres, on vous dit oui, et puis ça ne se fait pas. Il faut convaincre. Et convaincre, c'est très compliqué. Parce que c'est parler à des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais à partir du moment où vous avez réussi à les convaincre en prenant le temps et l'énergie et l'attention et l'empathie nécessaires, à ce moment-là, les choses se font. C'est pour ça que je suis très admiratif de la ministre que nous avons aujourd'hui. On se retrouve avec une drôle de guerre. D'ailleurs, je la cite dans le livre à plusieurs reprises. Parce qu'elle a été très attentive à l'expérience malheureuse que nous traversions, qui s'est bien finie, mais d'ailleurs. Et je veux dire, justement, il y a ça. Il y a ce désir de convaincre, ce désir de parler, ce désir de manifester de l'empathie. Et quand on est ministre de la Culture, surtout dans la période actuelle, encore plus que dans la période heureuse que j'ai connue, c'est très très nécessaire.
C'est Nicolas Sarkozy qui vous avait appelé alors que vous dirigiez à Rome la Villa Médicis pour vous proposer donc cette fonction de ministre de la Culture. Vous avez le sentiment que là-haut, François Mitterrand a peut-être trouvé assez drôle que ce neveu, qui l'agaçait un petit peu parce qu'il le trouvait trop libre, devienne ministre de la Culture dans un gouvernement de droite.
Oui, ça, je pense que ça ne lui posait aucun problème. Ça ne lui posait aucun problème parce qu'il y a toujours eu... Vous savez, on a sous-estimé chez François Mitterrand beaucoup de choses, et notamment le fait qu'il avait une morale de la République très très forte. Donc, le fait que son neveu serve la République, c'était bien. Alors, que ce soit dans un gouvernement dit de droite ou dans un gouvernement dit de gauche, on n'était pas dans une situation insurrectionnelle ni dans une situation de fascisme. On était dans le fonctionnement de la démocratie. Bon. Et donc, je pense que ça ne lui aurait posé aucun problème. Et je vais vous faire une confidence que je n'ai jamais faite, en vérité. C'est que l'une des premières personnes à m'avoir félicité quand je suis devenu ministre, c'était Daniel Mitterrand.
Vraiment.
Avec qui je m'étais souvent disputé sur le plan politique très très fort. Mais ça veut dire qu'ils avaient une idée de la morale de la République. Et le fait que le petit Frédéric serve cette morale de la République, eh bien c'était plus important que le reste.
Frédéric Mitterrand, quand on quitte les ors de la rue de Valois, il sonne beaucoup moins le téléphone.
Ah ben le téléphone, il n'existe plus même.
Hein. Il n'existe plus.
Non, il n'existe plus, mais ça on le sait. Donc c'est pas grave. On le sait.
Ah, vous dites « on le sait ». Vous écrivez d'ailleurs, je crois, dans ce livre, qu'on n'apprend plus rien sur la nature humaine passé un certain âge. Passé quel âge ?
En ce qui me concerne ?
Oui.
14 ans.
À 14 ans, vous aviez compris comment fonctionnait la société,
oui, l'humanité. Oui, je n'avais pas compris comment je fonctionnais, moi.
Mais les
j'avais
autres,
à peu
oui.
près compris comment ça fonctionnait. Non, mais je joue les petits Mozart, là. Mais je veux dire, les enfants et les adolescents, ils comprennent tout. Hein, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est comment ils vont se situer par rapport à tout ça. Mais je crois vraiment que quand on est très très jeune et qu'on a la chance de vivre dans un milieu de gens qui sont assez cultivés ou instruits, etc., on comprend énormément de choses. Mmh. Alors ça, c'est une première chose. Ensuite, après, vient l'expérience. Mais l'expérience, ça ne sert qu'à une seule chose, c'est à essayer de devenir meilleur. C'est-à-dire à ne pas rater les relations humaines qu'on peut avoir autour de soi.
Juste avant de faire une pause, Frédéric Mitterrand, et alors là, c'est un clin d'œil, mais il est savoureux. J'aimerais que vous nous contiez en fait cet aparté absolument surréaliste avec Vladimir Poutine au cours d'un dîner.
Ah ben il faudrait une heure.
Vous étiez ministre de la Culture.
Oui.
Vous vous trouvez devant Poutine. Oui. Qui vous dit ?
Qui vous dit, je sais tout de vous. J'étais au pire moment, où il y avait les polémiques à propos de mon livre La mauvaise vie. C'était le pire moment. Il me dit, je sais tout de vous. Alors, j'ai vu évidemment l'ancien officier du KGB. Je n'ai rien trouvé d'autre à lui dire que bon, maintenant, monsieur le président, je ne peux que progresser.
C'est ce que vous lui avez répondu, oui, du tac au tac.
Ça l'a fait rire.
Ah, bon.
Mais c'est très, très bizarre, la relation que j'ai pu avoir avec lui.
C'est-à-dire ?
Il y a dans Paris, cours Albert Ier, il y a une statue qui est la statue des soldats russes qui se sont battus pour la France pendant la guerre de 14-18, que tout le monde avait oublié. Et j'ai obtenu de lui qu'il paye pour qu'on fasse cette statue. Et on peut la voir, elle est dans Paris. Voilà, ça c'était une des choses. C'est très...
Au cours de ce dîner, vous avez obtenu cela de Vladimir Poutine.
Ah oui, j'ai obtenu
beaucoup d'autres choses. On aurait dû vous nommer ministre des Affaires étrangères, Frédéric
Mitterrand.
Non,
j'étais simplement un petit ministre de la Culture qui savait ce qu'il voulait en face de Vladimir Poutine. C'était simple. Je me suis dit, bon, j'ai la chance
d'être... qu'avez-vous obtenu d'autre ?
J'ai la chance d'être... Ah ben, j'ai obtenu... Non, je ne vais pas le dire, parce que ça concerne des gens dont il fallait essayer d'améliorer la situation. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand vous avez la chance... tout d'un coup de vous retrouver comme ça dans la cour des grands et que vous savez que cette chance ne se représentera pas, vous ne perdez pas votre temps. Mais vous comprenez aussi que si vous commencez à bombarder votre convive de demandes, ça ne marchera pas. Donc d'abord, il faut essayer de le charmer un peu. Il faut essayer de le faire rire. Il faut penser que tous ces...
Comment fait-on rire Poutine ?
Ah, mais c'est pas si difficile. C'est pas si difficile. On lui raconte des histoires qui l'amusent. On y arrive, oui. Mais moi, j'ai un côté cabotin aussi.
Et qu'est-ce
donc.
Qui amuse, Poutine ?
Je sais pas, la manière. Par exemple, se mettre à sa place à table en disant « Maintenant, je suis le tsar de Russie, vous allez m'obéir. »
Vous avez osé ça ?
Oui, j'ai osé ça et ça l'a fait rire.
Pas que Poutine, j'imagine. Ou les autres étaient glacés de terreur.
Il y avait deux ambassadeurs qui regardaient leurs pieds. Deux interprètes qui s'embrouillaient et François Fillon qui me regardait en face qui me disait « Mais vraiment, il est complètement fou !» Et ça a très bien marché.
C'est magnifique.
Voilà.
Magnifique, comme dirait notre ami Michel Drucker. Allez, on retrouve immédiatement Frédéric Mitterrand.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Cher Frédéric, le 5 février de cette année, alors que personne en France ne parlait encore du Covid, des amis sont presque venus du monde entier pour assister dans une ambiance euphorique à votre installation à l'Académie des Beaux-Arts, sous les roulements de tambour de la garde républicaine. Alors, vous avez succédé à Jeanne Moreau et vous avez rejoint donc Régis Varnier, Jean-Jacques Hano, Roman Polanski et Jacques Perrin. Et même si vous n'ignorez rien des honneurs, eh bien j'imagine que le fait que la dernière épouse du Shah d'Iran, l'impératrice Farah Pahlavi, remette votre épée d'académicien a dû être pour vous un vertige de félicité, comme si le monde moderne, finalement, n'avait pas tout dévoré, non ?
Alors, oui et non.
Oui et non.
Oui. Oui, parce que les honneurs, ça ne se demande pas, ça ne se refuse pas.
Voilà, comme disait Churchill.
Et on vit avec. Voilà. Donc ça, ça fait toujours très plaisir. Et non, parce que, si étrange que ça puisse paraître, il n'y a aucun snobisme. J'ai aucun snobisme. Et ce qui était bien dans cette cérémonie, c'est qu'il y avait il y avait beaucoup de monde, mais il y avait une chaleur très grande. J'avais Adrien Goetz qui avait fait un très beau discours pour m'accueillir. J'ai montré des extraits.
Plein de fantaisie d'ailleurs.
Oui, c'était bien. Vraiment très bien. J'ai montré quelques extraits des films ou des chansons de Jeanne Moreau. Et je crois que c'est la première fois que dans le cénacle de l'Institut, des académiciens chantaient généralement Marquis-Flanche.
C'est magnifique.
C'était bien.
C'est magnifique.
C'était bien. C'était ça qui était le plus important.
Extraordinaire. Alors, cette épée d'académicien, sur cette épée, il paraît que vous avez fait graver le mantra de votre grand-mère.
Oui, il me reste tant de choses à faire.
Et il vous reste beaucoup à faire.
Voilà, c'est ça. On aimerait bien qu'il reste suffisamment de temps pour faire beaucoup de choses. Puis après, bon, après c'est fini. Puis voilà.
Frédéric Mitterrand, l'Académie des Beaux-Arts est l'une des 5 académies composant l'Institut de France. Et elle répartit ses membres dans 9 sections artistiques qui s'attachent à promouvoir et à défendre le patrimoine culturel français. Mais concrètement, que peut l'Académie des Beaux-Arts contre la spirale infernale de cette époque qui évacue la culture au profit du divertissement ?
Alors,
que faites-vous tous ensemble réunis ?
C'est une trop grande question. C'est très bien de la poser parce que c'est celle qu'on se pose en permanence. Mais c'est celle qu'on se pose en permanence. Mais alors, d'abord, l'Académie des Beaux-Arts dirige un certain nombre d'instituts.
Oui.
Par exemple, le musée Marmottan, par exemple, la villa Kérylos. Il y a une quinzaine d'institutions très importantes à travers la France qui sont sous la juridiction de l'Académie des Beaux-Arts. L'Académie des Beaux-Arts distribue aussi un nombre très important de bourses de travail pour des artistes. Et en vérité, ça, c'est une aide considérable apportée à beaucoup d'artistes et qui sont souvent dans la difficulté. Le secrétaire perpétuel, Laurent Petit-Girard, est extrêmement dynamique. Il nous entraîne tous dans des nouvelles initiatives, et notamment une initiative très, très remarquable qui consiste à ouvrir plusieurs ateliers dans Paris dont pourront disposer des artistes qui n'en ont pas. Et ça, c'est en cours. C'est une de ces actions et nous l'approuvons complètement. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a aussi un rôle de conseils qu'il va falloir développer de plus en plus auprès des institutions politiques, dans la mesure où il y a à l'Académie des Beaux-Arts beaucoup de personnes vraiment remarquables.
Frédéric Mitterrand, il paraît que vous auriez adoré reprendre le grand échiquier sur France 2 que présente Anne-Sophie Lapix, mais on ne vous a pas appelé. La transmission de Jacques Chancel à vous aurait été légitime.
Oui, mais
en tout cas, ça vous aurait plu.
Non, ce que j'aimerais faire, c'est recevoir, c'est toujours la même chose, c'est transmettre l'idée de la culture en montrant que la musique, ça va de la chanteuse des rues à Boulez. Non, ça, si j'avais la possibilité encore d'organiser ce genre de rencontres et de les transmettre, oui, je serais ravi.
Vous seriez un homme heureux. Parlons de la télé. Vous dites que, contrairement aux États-Unis, où il y a à la télévision énormément de présentateurs aux cheveux blancs, et même plus âgés que vous.
Il y a beaucoup de vieux,
oui. Mais oui, aux États-Unis, vraiment, quand on regarde toutes les chaînes américaines, c'est frappant, et ça fonctionne très bien. En France, eh ben, la télé, elle est prise d'une espèce d'hystérisation qui martèle le jeunisme en permanence. Pourquoi la télé française a-t-elle peur de l'âge, alors que la télé américaine, pas du tout ?
Eh ben, il faut le demander aux gens qui la dirigent. Moi, je ne peux pas vous répondre. Il faut le demander aux gens qui la dirigent, et voilà. J'ai pas de réponse. C'est dommage, je trouve que c'est dommage. Je comprends qu'on veuille donner une image dynamique et au fond une image jeune dans un univers extraordinairement concurrentiel qui est celui de la télévision où la magie de l'audience joue tellement fortement. Mais la jeunesse, c'est pas une question de cheveux blancs. Les États-Unis viennent d'élire un président qui a 78 ans. Oui. Et donc, la jeunesse, c'est un état d'esprit, c'est une manière d'être. Enfin, c'est un lieu commun de le dire. J'ai rencontré beaucoup de jeunes qui étaient très vieux et beaucoup de vieux qui étaient très jeunes.
Frédéric Mitterrand, est-ce que la lumière qui semble protectrice, tel un soleil artificiel, la lumière des plateaux de télé, là où la vie n'est jamais grise, là où la vie n'est jamais vide, est-ce qu'elle vous manque, cette lumière-là ?
Ce qui me manque, c'est le clic-clac, comme ça, la petite lumière qui s'allume, et on est comme un petit...
La dose d'adrénaline.
Oui, ça me manque. Mais ça ne me manque pas pour de mauvaises raisons. Ce n'est pas parce que j'ai envie qu'on me voit, c'est parce que j'ai envie qu'on voit les autres. Il y a tellement de gens remarquables à qui on ne prête pas suffisamment attention. Et ça va des gens les plus modestes qui font des choses dans leur coin, à des gens qui ont fait des œuvres qui ne sont pas encore reconnues et qui mériteraient de l'être.
On poursuit cette balade en compagnie de Frédéric Mitterrand qu'on retrouve tout de suite. Cher Frédéric Mitterrand, on ne sait jamais ce qu'on est pour les autres. Disiez-vous sur la scène du studio Marigny où, il y a 2 ans, seul face au public, vous contiez des bribes de votre vie si romanesque. Vous avez le sentiment, peut-être, d'avoir aimé plus qu'on ne vous a aimé ? Ce qui est le propre d'un écrivain. Vous avez ce sentiment ou pas ?
Non. Et ça ne me pose pas vraiment la question. C'est plutôt à propos des autres. C'est-à-dire que lorsque mon frère a été atteint par le virus, j'ai pu mesurer à quel point il était aimé. Par moi, bon. Par mon autre frère, oui. Par ses enfants. Ses enfants sont très présents dans le livre. Hein, que j'aime énormément. Et puis aussi par toutes sortes de gens que je connaissais ou peu ou pas du tout. Et qui m'envoyaient des messages en permanence pour savoir des nouvelles de sa santé.
Et que vous avez découvert, voilà. en fait, au bénéfice de cette épreuve.
Et donc c'est vrai qu'on ne sait jamais vraiment tout à fait ce qu'on représente pour les autres. Mmh. Et on se fait quelquefois une image de soi-même. Moi, j'ai tendance à faire une image assez critique de moi-même, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Et personne ne sait mieux vous critiquer que vous, d'ailleurs.
Oui, j'ai tendance à...
C'est ce qui a été dit dans le discours, justement, à l'Académie des Beaux-Arts.
J'ai tendance à
une auto-flagellation fabuleuse.
J'ai tendance à en faire un peu trop, quelquefois. Et c'est d'ailleurs pervers, parce qu'en fait, quand on se critique soi-même, c'est qu'au fond, on ne se trouve pas si mal. Et donc, on est hypocrite avec soi-même. Non, mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'on ne sait jamais tout à fait ce qu'on représente pour les autres.
Parlons de vous, Frédéric. Vous dites...
On ne parle que de moi.
Mais non, vous parlez beaucoup des autres, et ça vous ressemble d'ailleurs. Vous dites que le temps file entre vos doigts, mais y a-t-il une grande œuvre à laquelle vous voulez vous atteler à présent ? Victor Hugo a écrit Les Misérables à 60 ans, Ingres a peint le sublimissime bain turc à 80 ans.
Oui.
Vous êtes pile.
Petit chien.
Vous êtes pile entre ces deux âges. Oui. Alors, votre grande œuvre...
Non, mais grande œuvre, c'est comme grand mini, c'est comme... Cherche pas à faire grand, cherche à faire bien.
Bon, alors 1939, par exemple, l'année de toutes les conjonctions diaboliques.
Oui, alors
vous
là,
êtes en train d'écrire le livre.
Je suis en plein dedans et je peux vous dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que je ne veux pas dire de bêtises. Parce qu'on sait à peu près ce qui s'est passé en 1939. Hein,
oui, bien sûr, mais
Munich,
en fait, il faut faire plus qu'un travail d'historien. Parce qu'il ne s'agit pas d'être factuel. Vous êtes sociologue, philosophe.
Il faut essayer de comprendre la psychologie des hommes qui étaient au pouvoir à ce moment-là, qui ont été jugés très sévèrement ensuite. Certains le méritaient, d'autres moins. Et il faut être avec le général de Gaulle quand il était en train de faire antichambre pour qu'on l'écoute alors qu'il avait raison et tous les autres avaient tort sur le plan militaire. Il faut être avec le président Daladier qui était un homme tout à fait estimable et qui a été jeté quasiment dans les oubliettes de l'histoire. Mmh. Et parce qu'il n'arrivait pas à réformer la France qui, à ce moment-là, était tellement engoncée dans ses institutions et dans beaucoup d'autres choses. Il faut essayer de comprendre pourquoi le Front populaire avait apporté un tel sentiment d'euphorie. Il faut essayer de comprendre toutes ces choses-là. Et donc, il faut lire les revues de l'époque. Et puis, en même temps, il ne faut pas s'engloutir, parce que autrement, on y passe 5 ans. Donc, je suis en train de travailler là-dessus et j'y attache beaucoup d'importance.
Le livre pourrait paraître l'année prochaine ?
L'année prochaine, oui.
Et alors, quant au tournage de films, parce que je sais que...
Moi, j'ai plusieurs films que je voudrais
faire.
Est-ce
que vous portez en vous, par exemple, le film qui pourrait être fait ? D'après l'œuvre de Malraux, La condition humaine. Vous l'avez souvent évoqué.
Alors ça, j'ai voulu le faire.
Et
j'ai voulu le faire, je me suis beaucoup déplacé dans les chaînes de télévision et parmi... Et puis, il y avait une sorte de réticence très très grande. Et donc, je me suis dit, je ne vais pas passer plusieurs années à essayer de monter ce projet que beaucoup, beaucoup de grands metteurs en scène ont essayé de monter.
Et, vraiment et,
ah oui, oui, beaucoup. C'est oui. impressionnant le nombre de scénarios qu'il y a eu à partir de la condition humaine.
Est-ce qu'il y a des livres qui doivent demeurer des livres et pas devenir des films?
Peut-être, mais en tout cas, ça n'arrivera pas. Je pense que tous les livres deviendront des films. C'est arrivé d'ailleurs avec, avec Proust, dont on disait que c'était impossible, ouais, que tout le monde a essayé ouais, de faire, ouais. et puis finalement ça s'est fait. Non, tout va passer à la grande moulinette du cinéma. et si c'est uniquement une adaptation, ça a peu de chances de marcher. Si celui qui fait le film se met intégralement dans le film, il y a déjà de meilleures chances.
Cher Frédéric, je vous écoute et je me dis, pourquoi vous, que je sais être un homme bon, aimez-vous avec une espèce de fantaisie comme ça, un petit peu provocante, avouez, moi j'aime le diable, il m'intéresse plus que Dieu.
Mais d'abord, je pense qu'on s'amuse mieux en enfer qu'au paradis. Hein. Je veux dire, on rencontre beaucoup plus de gens intéressants en enfer qu'au paradis.
Ah bon ?
Ensuite, je sais très bien qu'il ne faut pas dîner avec le diable, même avec une grande cuillère. Mais je ne sais plus d'où vient ce proverbe, mais qui oui. est formidable. Mais je pense que toutes les passions humaines sont plus stimulantes, en tout cas, pour essayer d'améliorer sa propre vie. Que de vivre dans un monde étal où il n'y a pas de sentiments passionnés. Non, je pense que c'est très indispensable. Vous savez, il y a une phrase de Churchill qui est géniale, qui dit que pendant la guerre, si tout d'un coup le diable décidait de devenir notre allié contre Hitler, je trouverais forcément quelques mots aimables à dire sur l'enfer. Et ben, j'adore ça.
Formidable. Bon, les réflexions, il y en a mille profondes, puissantes, poignantes, dans Une drôle de guerre qui vient de paraître chez Robert Laffont. Merci infiniment d'avoir cheminé comme ça avec nous cet après-midi et de vous être livré si généreusement, Frédéric.
Merci de m'avoir reçu si gentiment.
À bientôt.
Si gentiment. Europe 1.